Vous êtes passionné de films? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Et comme chaque semaine, on va décrypter un film disponible gratuitement sur la plateforme d'SBS On Demand. On en a déjà parlé sur notre Facebook, mais on va en reparler plus en détail avec Laurent Auclair. Salut Laurent.
Bonjour, comment ça va?
Ça va impeccable, impeccable. Alors le film, on en a déjà parlé sur notre Facebook, c'est vrai, c'est 37.2 le matin, Betty Blue. Alors c'est disponible que pendant un mois sur la plateforme d'SBS On Demand, déjà faut le dire. Mais c'est quand même un classique, vous nous gâtez avec les classiques en ce moment-là.
Oui, c'est surtout SBS On Demand qui nous gâte avec les classiques français en ce moment. Et c'est vrai que 37.2, 37.2 le matin, mais tout le monde l'appelle 37.2, c'est un film qui a marqué une génération lors de sa sortie en 1986. Alors, c'est un film qui est réalisé par Jean-Jacques Benex avec Béatrice Dalle qui joue le rôle de Betty et Jean-Hugues Anglade qui joue le rôle de Zorg, qui est donc le petit ami de Betty. Et on suit donc pendant le film toute leur histoire d'amour très passionnée, très fusionnelle. Alors il faut tout de suite prévenir.
Alors j'allais le dire, vous me retirez les mots de la bouche. C'est un film qui est chaud bouillant. Donc si on a moins de 15 ans, voire même un peu plus, on ne regarde pas ce film.
Exactement, et pour tous les parents, faites attention. La première scène est une scène d'amour très torride. Pose déjà le ton du film. Et c'est vrai que j'avais moi oublié depuis le temps que je l'avais regardé, mais en le revoyant, Jean-Hugues Anglade est à peu près nu la moitié du film. Donc il se promène tranquillement.
Donc, on espère que ça a été filmé l'été quand même. Hein. Donc,
Oui, non, et c'est vrai que ça fait partie du film, mais ça fait aussi partie de cette vision qu'on a beaucoup dans les films français et dans les films européens, de traiter la nudité avec une certaine innocence et sans a priori. Et c'est vrai que dans ce film en particulier, quand il fait chaud et que les gens sont dans leur intimité, ils se retrouvent à peu près comme beaucoup de gens dans la vie normale, ils se retrouvent nus.
Donc, parlez-nous de ça, Laurent. Que faites-vous? je rigole.
Mais c'est vrai que on n'a pas tellement cette habitude dans la culture des films australiens. Et je trouve que ça, c'est une spécificité française et européenne qui fait du bien. Mais c'est aussi drôle de voir que ça, c'était possible de le faire il y a 30 ans, quand ce film a été tourné. Ce serait beaucoup plus difficile de faire accepter un film avec autant de nudité et autant de scènes d'amour très, très crues. De nos jours et c'est vrai qu'on se demande un petit peu où va notre monde si il est plus facile de faire tuer des gens à l'écran que de les montrer nus, c'est toujours un petit peu bizarre.
Ouais, tout à fait. Et je crois que d'ailleurs le film commence, on va pas aller trop loin sur le nu, mais le film commence avec une scène qui est torride dès l'entrée de jeu.
Oui, c'est vraiment les
bases sont mises dès le départ.
Voilà, les deux premières minutes sont très très peuvent être choquantes pour des gens qui ne sont pas habitués à avoir des scènes d'amour aussi crûment montrées. Et c'est vrai que ça a fait partie de la controverse du film quand il est sorti, parce qu'évidemment on a accusé Jean-Jacques Benex de voyeurisme et d'un petit peu jouer la sensation de la nudité dans ce film et surtout sur cette scène d'ouverture, alors que pour moi elle est nécessaire au film, elle est nécessaire au personnage, et on comprend beaucoup mieux comment leur relation évolue. C'est-à-dire qu'on est dans le départ du film. Ce jeune homme et cette jeune femme se sont rencontrés une semaine auparavant. Ils n'ont échangé que des scènes d'amour pendant une semaine, et tout d'un coup, Betty décide d'emménager chez Zorg, puisqu'elle s'est fait un petit peu virer de l'hôtel où elle travaillait. D'où cette fameuse première phrase qu'elle donne à Zorg, c'est la première fois qu'on se voit dans la lumière, et c'est vrai que c'est la première fois qu'ils se voient durant la journée. Et c'est vrai que tout de suite Zorg est pris dans le tourbillon qu'est Betty. Elle mène sa vie à l'instinct complet, et elle ne prépare rien, ne prémédite rien, et c'est ça qui fait sa beauté pour Zorg, et c'est en partie pour ça qu'il tombe amoureux d'elle. Mais malheureusement, ça va les emmener assez loin, puisqu'elle a quand même une santé mentale assez fragile qui va se détériorer au fil du film et qui fait toute l'histoire et toute la beauté du film, même si il y a beaucoup d'accents désespérés dans cette histoire d'amour très fusionnelle.
D'accord. Le film, on en a un petit peu parlé, mais la réception a été mitigée en France. Il y a des gens qui ont adoré ce film, il y a des gens qui ont détesté. En tout cas, c'est un film qui, c'est sûrement pour ça qu'il reste ancré dans les mémoires, ce film aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Et c'est vrai que la controverse à la sortie du film, elle a autant joué sur le contenu du film lui-même que sur les entretiens et les interviews qu'ont pu donner Béatrice Dalle et Jean-Jacques Benneck. Jean-Jacques Benneck, c'est un réalisateur qui a toujours eu beaucoup de mal avec les critiques. Parce qu'il est sûr de son talent et il a raison. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été facile à interviewer et il prend toujours des positions un petit peu extrêmes. Et puis Béatrice Dalle, qu'on découvrait complètement dans ce film, c'était pratiquement la première actrice de cette époque en France à ne pas rentrer dans le moule, à vraiment dire ce qu'elle pense, à parler avec sa gouaille qui rend un petit peu certains de ses propos un peu vulgaires. Et du coup, ben, c'est pareil, les journalistes l'ont pris un petit peu à rebrousse-poil et n'ont pas tellement apprécié cette liberté, ce qui fait qu'il y a eu autant d'échauffement hors de l'écran que sur l'écran. Et c'est vrai que ça a donné beaucoup de controverses autour du film. Mais il faut dire aussi que le film tourne une très belle histoire d'amour qui commence vers une violence du couple qui est parfois assez difficile à supporter et à regarder. Et pour ça, bon, on retrouve également, bien sûr, la patte de Philippe Djian qui a écrit le roman qui est aussi chaud que le film et qui pousse les choses à l'extrême. Et c'est vrai qu'on est là dans un traitement extrême de toutes les sensations et de toutes les émotions, alors qu'il peut parfois, effectivement déranger certaines personnes.
Vous, c'est une question que je vous ai posée plusieurs fois, mais surtout quand on parle de films de cette époque-là, est-ce que c'est un film qui a vieilli 86? Alors, j'ai pas une dent contre les films des années 80, hein, que ce soit bien clair,
Non, non,
mais
mais
c'est
c'est
vrai que
vrai.
c'est une époque qui est à la fois entre, bon, c'est un film classique, mais est-ce qu'on arrive encore à se plonger facilement dans ce film ou est-ce qu'il y a des choses qui font que, bon, il y a quand même des choses qui ont vieilli dans ce film?
Eh bien, pour moi, il n'a pas vieilli vraiment. Et contrairement, alors c'est vrai que là-dessus, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais je comprends votre argument sur Luc Besson, sur des films comme Nikita ou Le Grand Bleu, qui ont, eux, beaucoup plus la patte années 80. Là, je trouve que 37.2, ça garde une fraîcheur d'abord parce que c'est intemporel dans les endroits qu'on montre. Et y a pas du tout, on cherche pas du tout à placer le film dans une certaine époque. Donc ça, forcément, ça permet au film de mieux vieillir. Et puis, je trouve qu'il y a un travail du directeur de la photo qui est absolument exceptionnel. Il y a des plans d'une beauté de couleurs qui forcent le respect. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un film qui garde sa fraîcheur, qui garde sa niaque. Et qui continue à déranger, même 30 ans après, certains aspects continuent vraiment à déranger. Et pour moi, ça n'a pas vieilli, c'est vrai, au sens de certains autres films des années 80 qui, malheureusement, marquent leur époque, mais aussi ont du mal à s'exporter à travers le temps.
D'accord. Alors, je veux pas qu'on détaille trop le film parce qu'il faut vraiment le voir ce film. Vous avez qu'un mois pour le voir, donc on va pas rentrer plus en détail. Mais c'est un chef-d'œuvre du cinéma français, en tout cas de l'époque, et c'est très certainement un film dans 30, 40, 50 ans, on en reparlera encore. C'est obligatoire.
Oui, et surtout aussi, je voulais noter la musique qui est de Gabriel Yared, qui est pour moi sans doute l'une des meilleures bandes originales de films des années 80, qui est entêtante, envoûtante dès le début, et qui donne également de très très bons moments dans le film de conjugaison parfaite entre les acteurs, la photo et la musique qui l'accompagne. Ça fait vraiment partie du film et c'est une musique qui a marqué, je pense, plus d'une génération de spectateurs.
Absolument. On va jouer la bande-annonce d'ailleurs et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Le film, c'est donc 37 2 le matin. Betty Blue en anglais, c'est disponible sur SBS en demain. Merci Laurent.
Merci beaucoup, très bonne semaine à tous.
Voilà, bande-annonce et musique après. On se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. À tout de suite.